troisième dimanche du temps ordinaire. En ce troisième dimanche du temps ordinaire, nous prions pour l'unité des chrétiens dont la semaine qui lui fut consacrée s'achève. Les textes de ce jour nous invitent à cette unité. Le prophète Esdras, dans la première lecture, lit le livre de la loi devant tout le peuple rassemblé après l'exil. Ainsi, ceux qui furent déportés, ceux qui sont restés et ceux qui avaient fui se retrouvent d'un seul cœur pour écouter cette parole de vie. Et ils pleurent d'entendre ces paroles qu'ils avaient peu ou prou entretenues dans leur cœur et dont ils redécouvrent quelles sont leur existence et leur unité. Saint Paul va nous rappeler dans la seconde lecture que les membres d'un corps ne peuvent se détacher ou refuser d'accomplir leurs fonctions. Ils forment un tout, et chacun, le plus faible ou fort qu'il soit, est une partie indispensable, dont le bon ou le mauvais fonctionnement rejaillit sur tout le corps. Ainsi nous sommes un, non par une origine commune, ni par une volonté commune, mais par le désir et la volonté de Dieu de nous faire un en lui et avec lui. En commençant son évangile, Luc nous révèle que cette unité se construit pas à pas. S'il a voulu offrir à son ami Théophile un exposé complet des événements de Jésus et de la foi annoncée, il en a pris les moyens, en collectant toutes les sources capables de construire son récit dans la vérité. Afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Cette unité tant recherchée et cette cohérence de la vie ne proviennent pas d'un événement particulier, miraculeux, déclencheur, comme chez les autres évangélistes. En Jean, Cana est l'heure du Fils de l'homme. En Marc, le baptême est l'expulsion d'un démon pour signifier la puissance du Fils de Dieu. En Matthieu, le baptême et la guérison de toute infirmité dans le peuple marquent l'action de Dieu à l'œuvre dans le monde. En Luc, les événements découlent d'eux-mêmes. Jésus enseigne, vient à la synagogue de Nazareth et, comme tout un chacun, lit un morceau de la Torah. Mais il s'arrête au bout de la promesse en Isaïe 61, verset 1-2, sur les bénédictions promises. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Mais il ne poursuit pas sur le jour de vengeance qui suit dans le texte. Et là où les auditeurs, ayant les yeux fixés sur lui, attendent un long commentaire de la parole, il déclare simplement « Cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Les promesses viennent à leur accomplissement. C'est aujourd'hui. Et leur accomplissement découle de Jésus lui-même. Il est véritablement le réalisateur des promesses. Il ne s'arroge rien. Il pourrait dire « Je suis celui qui a reçu l'onction. Je suis l'envoyé. » Non, c'est aujourd'hui. Il faut une reconnaissance intérieure, une foi entretenue pour, avec le regard ouvert à Dieu, voir qu'il accomplit ses promesses, délicatement, simplement, humblement. Celui qui regarde, comme le fait et le dit Luc, voit Jésus comme l'aujourd'hui de Dieu. Il mesure, sans à-coup, cette présence de Dieu qui accomplit ses promesses, en moi, en mes frères, en l'Église. Point n'est besoin d'éboulement, de feu tombé du ciel ni d'ouragan, simplement d'un silence évocateur, d'une fine brise légère qui me rappelle que c'est aujourd'hui que cela s'accomplit. En cette année, aurons-nous la patience et la disponibilité de cœur pour écouter le Seigneur en tout ce que nous vivons? C'est aujourd'hui, maintenant, que ma parole s'accomplit en toi, nous rappelle-t-il.